Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Bouris.
Bonjour, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Menacée de perdre son rang de puissance économique, la France a vu beaucoup de ses industries disparaître au cours des dernières années. Le gouvernement cherche, en vain pour l'instant, à endiguer ce mouvement, mais aucune nation sur aucun continent n'échappe à la volonté de préserver ses industries ou de s'industrialiser. Pourtant, on est en pleine révolution numérique, le virtuel, la dématérialisation... On le vend en poupe, alors les usines, l'industrie lourde, les mains dans le cambouis. Est-ce que c'est du passé ? À quoi ressemble l'industrie de ce début de 21e siècle ? Et 151 ans après la révolution industrielle, la richesse des nations passe-t-elle encore par les industries ? Pour répondre à ces questions, trois invités dans les studios de RFI aujourd'hui. Bonjour Jean-Louis Beffard.
Bonjour.
Pour ceux qui s'intéressent aux affaires économiques et industrielles, vous êtes un personnage très célèbre. De 1982 à 2007, pendant un quart de siècle, vous avez dirigé le groupe Saint-Gobain, un des fleurons de l'industrie française. Vous en êtes aujourd'hui le président d'honneur. Saint-Gobain, c'est quoi aujourd'hui ?
Saint-Gobain, c'est une entreprise de 43 milliards d'euros de chiffre d'affaires qui emploie 180 000 personnes, qui a des usines dans 64 pays et dont les spécialités sont sa spécialité historique, le verre plat. Les miroirs, le verre automobile, puisqu'elle a été fondée il y a 350 ans, sous Louis XIV, mais également les matériaux de construction, au sens large, la laine de verre, le plâtre. Et enfin, elle est devenue un grand leader de la distribution des matériaux de construction. Et donc aujourd'hui, en chiffre d'affaires, elle est moitié industrielle, moitié dans la distribution.
Donc service.
Service.
Avec nous également Vincent Charlet. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Charlet.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur des mines et directeur de la Fabrique de l'Industrie. C'est un think tank créé il y a 3 ans en particulier par l'UIMM, l'Union des Industries Métallurgiques et Minières, la colonne vertébrale du patronat français. Quel genre d'idées promeut ce think tank, la Fabrique de l'Industrie, Vincent Charlet ?
Avant tout, celle du débat participatif autour des enjeux industriels, qu'ils soient économiques, technologiques ou sociaux. Nous sommes essentiellement un laboratoire qui fait travailler ensemble des gens de tous horizons, chercheurs, syndicalistes, industriels, petits et grands. C'est vraiment sur ce terrain participatif que nous avançons.
Mais toujours pour défendre l'importance de l'industrie.
Toujours pour l'illustrer.
Avec nous également dans ce studio, Christian Palois, économiste. Bonjour Christian Palois.
Bonjour.
Après une longue carrière de professeur d'université à Grenoble et à Paris, mais aussi à Alger et à Oran, vous êtes aujourd'hui directeur de publication de la revue Économie et Institutions et vous défendez une vision marxiste de l'économie. L'industrie a-t-elle occupé une place importante dans votre carrière de chercheur, Christian Palois ?
Absolument, j'ai beaucoup travaillé sur l'industrie, d'abord théoriquement, notamment, mais à Grenoble, on participait à l'industrialisation, au plan de développement de l'Afrique. Et donc, j'ai travaillé avec l'IREM Grenoble sur les plans de développement en Afrique dans les années 60-70. Excusez-moi, je suis un peu vieux de rappeler. Et donc, l'industrie a toujours été au centre de mes préoccupations.
Mais quand vous parlez de l'Afrique, c'est un vaste continent.
C'est un vaste continent. C'était l'Afrique subsaharienne et également l'Afrique du Nord.
Au cours de cette émission, Christian Palois, nous allons entendre des reportages, bien sûr. Patricia Lecomte nous emmènera dans une PME industrielle de la région parisienne. Une de celles qu'on trouve, dit-on, trop peu dans le tissu économique français. Notre correspondant en Inde, Sébastien Farcy, nous dira que le gouvernement indien multiplie les efforts pour attirer les industriels étrangers. Et nous verrons avec l'homme d'affaires égyptien Mounir Makar que l'industrie égyptienne a souffert de la crise politique de ces dernières années. Au troisième trimestre 2014, l'industrie française a reculé de 0,1% par rapport à la même période de 2013. C'est l'INSEE, l'Institut français de la statistique, qui le dit. En 6 ans, la production industrielle française a chuté de 16%. On parle de marginalisation de l'industrie française. C'est votre avis, Jean-Louis Beffin ?
Moi, je crois pas qu'il faille parler de marginalisation de l'industrie française. Et la première chose à dire, c'est qu'il y a deux types d'industries. Il y a l'industrie dans les métiers dans lesquels vos concurrents sont proches de vous, géographiquement, et par conséquent, ils ont à peu près les mêmes coûts, notamment de salaire, les mêmes coûts d'énergie, ce qu'on peut appeler des métiers régionaux. Et puis après, il y a les métiers qui, eux, sont soumis à la concurrence internationale.
Mais un métier régional, c'est quoi?
Eh bien, un métier régional, c'est le ciment, qui se déplace pas beaucoup, c'est le plâtre, où là encore on vend à 100 km de l'usine de production, c'est la laine de verre et toute une série de métiers. Il faut savoir que ces métiers-là n'ont pas de très gros problèmes quand vous êtes vraiment leader de ces métiers. C'est-à-dire que la mondialisation n'a pas changé la position compétitive de ces métiers. La mondialisation a changé profondément la position compétitive des métiers mondialisés, dans lequel la France, par exemple, si elle produit, est en concurrence avec la Chine, avec n'importe quel pays émergent, avec n'importe quel pays de la planète. La deuxième caractéristique qu'il faut que vos auditeurs connaissent bien, c'est que les meilleures sociétés françaises sont dans les métiers du premier type. C'est-à-dire qu'elles deviennent très internationales, mais évidemment la France compte de moins en moins, puisque chaque fois elles produisent en France que pour la France, en Allemagne que pour l'Allemagne. Donc elles produisent dans beaucoup de pays, mais la France devient une partie marginale de leurs résultats et de leurs préoccupations. Et donc par conséquent, pour aider au gros problème français, qui est quand même celui du déficit du commerce extérieur, la force de l'industrie française n'est pas très utile. En revanche, à l'exportation, c'est là où nous avons tous nos problèmes. Parce que là, nous perdons gravement en compétitivité. Pourquoi ? Des coûts trop élevés, des normes trop complexes, des méthodes de travail, des avances technologiques qui sont en train de s'éroder. Et donc le vrai problème français, il faut dire que c'est celui des industries exportatrices, pas de toute l'industrie.
En 2004, vous aviez publié, à la demande du gouvernement de l'époque, Jacques Chirac étant président, un rapport sur l'industrie française. Est-ce que l'industrie a beaucoup changé? L'industrie française s'est beaucoup dégradée depuis cette époque-là. Dans quel état était le secteur quand vous aviez publié ce document?
Je pense que tout ce qui a été dit dans ce document et les remèdes qu'il préconisait, c'est-à-dire un soutien de l'État à l'innovation technologique, reste, à mon sens, tout à fait valable. Et d'ailleurs, sous des formes différentes, les 34 programmes de Monsieur Montebourg de développement de nouveaux produits pensés par les industriels restent tout à fait là. Mais indiscutablement, depuis cette période-là, la France s'est compliquée en normes par rapport à des pays étrangers. La France a dégradé ses coûts salariaux, ne serait-ce que par rapport à l'Allemagne. Et surtout, nous sommes en train d'avoir l'émergence de concurrence des pays émergents, mais tout d'abord de la Chine, dont nous commençons qu'à voir ce qui va nous arriver. C'est-à-dire que ça va être des concurrents infiniment plus dangereux que nous le croyons encore aujourd'hui.
Christian Palois.
J'introduirai une petite remarque par rapport à ce que vient de dire M. Beffa. L'industrie française s'est affaiblie. Mais il faut retraiter les données à même périmètre. C'est-à-dire qu'il y a eu l'externalisation des services, qui a beaucoup joué, dans les pertes d'emplois, et donc dans l'évolution de la place de l'industrie dans le PIB. Il y a eu, deuxième chose, l'accroissement de la productivité du travail, qui a réduit l'emploi dans l'industrie, donc qui a été un deuxième facteur qui a détruit un certain nombre d'emplois. Et puis un troisième élément, c'est ce que rappelait M. Beffa, la concurrence internationale. Donc il n'y a pas simplement la concurrence internationale qui joue, hein, il y a également l'externalisation des services, c'est que dans les délocalisations, ce sont les services qui ont été le plus délocalisés, beaucoup plus que les sites industriels. Donc la délocalisation, elle frappe surtout l'activité de service. Et donc, on plaide avec mon collègue Colettis pour un... On est dans un groupe qui s'appelle le Manifeste pour l'Industrie, qui réunit à peu près une soixantaine, pour l'instant, de chercheurs, de syndicalistes, d'hommes de terrain, d'ingénieurs. Et donc, nous plaidons pour l'industrie, mais une industrie... Autrement également. Donc
ça veut dire quoi autrement?
Autrement, c'est-à-dire qu'il faut revoir le modèle de croissance industrielle. Ce que nous soutenons également, c'est que L'économie est traversée, nous, ce qu'on appelle un petit peu des extériorités, c'est-à-dire emprunte beaucoup sur la nature. Donc, un des inputs de l'industrie, ce sont les inputs naturels. Donc, que ce soit les mines, l'agriculture, l'énergie, etc. Et donc, l'industrie doit être plus économe quant à l'utilisation des ressources naturelles. C'est-à-dire, il faut revoir le modèle de croissance industrielle.
Vincent Charlet, il faut revoir le modèle de croissance industrielle, vous êtes d'accord avec ça, en France ?
De toute façon, il est en train d'être revu. Les industriels, quoi qu'ils pensent à titre personnel sur un plan politique ou idéologique, sont face à des mutations qu'ils doivent bien gérer. On peut penser à l'irruption du numérique dans toutes les étapes de la production. La nécessaire montée en gamme, je pense que si l'industrie française a un problème de positionnement, c'est celui-là. Réussir à monter en valeur ajoutée, à monter en gamme par rapport aux autres économies développées. Donc oui, de toute façon, il y a du travail.
Oui, je voudrais ajouter une chose très importante sur le contexte. Je crois que quand on observe ceux qui sont en train de réussir internationalement, et notamment par la voie de l'industrie, ils appliquent un certain nombre de principes de fonctionnement qui ne sont absolument pas ceux que nous appliquons en France. Les pays qui gagnent sont des pays d'abord en Asie, des pays comme la Chine, la Corée, voire le Japon. Chez nous, en Europe, en Allemagne ou en Suisse, ces pays-là gagnent. Qu'est-ce qu'ils ont ? Premièrement, ils ont des actionnariats long terme. Ils ne sont pas soumis au modèle du fonctionnement par action tel, si vous voulez, qu'il est appliqué, mettons, par les normes qui viennent de la City de Londres et qui sont les normes classiques. Donc, premièrement, il faut des actionnariats de long terme.
Vous opposez le capitalisme industriel et capitalisme financier ?
Je suis absolument. Je trouve que la France continue à adhérer à un modèle libéral financier et non pas un modèle industriel et commercial, alors que c'est ce modèle industriel commercial qui est en train de s'imposer comme vainqueur dans la planète. Il faut bien dire aussi qu'il y a d'autres arbitrages. Un arbitrage qui est très systématique en Allemagne, je pourrais vous citer des exemples forts, qui arbitre pour le producteur et non pas sans arrêt en faveur du consommateur. La France a sans arrêt arbitré en faveur de son consommateur au détriment du producteur, en le chargeant de contraintes, en le chargeant de réglementations, au nom de bonnes intentions, mais aujourd'hui, c'est comme un baudet, si vous voulez, qui est tellement chargé qu'il n'arrive plus à avancer. Ça, ce sont, à mon avis, les points fondamentaux. Le troisième point, cela peut se faire, bien marcher, uniquement si nous avons un bon dialogue avec nos syndicats. Et je crois qu'il y a une grande incompréhension des problèmes internationaux au niveau des grandes centrales syndicales, alors qu'il y a une bonne compréhension et une bonne coopération possible au niveau de l'entreprise, entre les syndicats de l'entreprise et les dirigeants de l'entreprise. Donc ce qui est très dangereux, ce sont toutes nos normes, toutes nos réglementations faites au plan national qu'il faudrait modifier pour que ce type de dialogue et de réglementation ne soit plus qu'au niveau de l'entreprise.
Alors, allons sur le terrain, des bassins industriels sinistrés, des cohortes de chômeurs. La situation de l'industrie française ne se résume pourtant pas toujours à ça. Il y a des géants comme Saint-Gobain, et il y a aussi des entreprises de taille moyenne qui sont performantes. Exemple avec ce reportage chez Magafor, une PME de la banlieue parisienne, leader mondial de sa spécialité, le rivet. L'entreprise exporte les deux tiers de sa production dans plus de 50 pays et compte seulement, peut-on dire, 170 salariés. Une entreprise familiale depuis 4 générations qui a ouvert ses portes à notre reporter Patricia Lecomte. Visite guidée de l'entreprise Magafor avec son patron Robert Mattei.
Là, ici, on est dans l'atelier construit il y a une centaine d'années, mais qui est équipé de matériel très moderne. Ici, on fabrique des outils coupants de précision qui servent à travailler la matière, essentiellement les métaux, pour fabriquer des automobiles, des portables, des lunettes. Enfin, tous les biens d'équipement sont fabriqués dans des usines, donc on a besoin d'outils. On est dans une usine de mécanique.
Comme il n'y en a plus beaucoup en France.
Comme il y en a moins qu'avant en France, mais je crois que la mécanique française est le second employeur industriel de France.
Est-ce que tous les postes chez vous sont pourvus ?
Chez nous, presque tous. On recrute.
Bon, monsieur. Est-ce que vous avez le sentiment qu'être un industriel français aujourd'hui, ça demande des efforts colossaux ?
Je ne pense pas. La mécanique française est un secteur extrêmement dynamique, un secteur exportateur, puisque la mécanique française exporte entre 35 et 40% de son chiffre d'affaires. Cette année, on devrait faire 75 ou 76% de nos ventes en Europe pour 23-24% hors d'Europe. C'est pas mal, mais il y a trois grands marchés dans le monde. Il faut être présent de la même façon partout. En dehors de 2008, 2009, 2010, on a eu une progression moyenne de l'ordre de 4%. Cette année, on devrait approcher des 5%. C'est un résultat qui est assez satisfaisant. Il faut quand même mettre un bémol, c'est que dans notre activité, on a besoin d'usines, d'énormément d'équipements, on a des stocks fabuleux, mais finalement, la rentabilité n'est pas là. On n'a pas les taux de développement et de rentabilité qu'ont d'autres secteurs industriels, avec des marges d'entreprise qui nous font rêver.
Jean-Louis Beffal, je vous voyais faire un peu l'amour en écoutant ce témoignage de ce patron de PME sur la facilité qu'il avait à opérer dans le pays.
Logique, il dit qu'il n'a pas de problème. Je crois quand même que si vous le comparez à l'essentiel des pays européens, notamment ceux qui réussissent industriellement, le contexte est 10 fois plus favorable qu'en France.
Mais ce genre d'entreprise est-elle indispensable à la richesse d'un pays comme la France ?
Je trouve que toutes les entreprises PME de ce style-là, menées par des familles dans la continuité, l'écoute du marché, il y en a plein qui ont réussi. Et je crois que c'est quelque chose de solide dans le tissu français. Simplement, nous n'en avons pas assez. Mais c'est le modèle qui réussit en Allemagne, c'est le modèle qui réussit en Suisse allemande, et donc il y en a d'excellentes françaises, et elles ont les bonnes caractéristiques d'adaptation, et souvent d'ailleurs de connaissances et d'avances technologiques dans leur métier. Donc moi je suis totalement pour l'entreprise familiale, pour son soutien, son développement, un traitement fiscal satisfaisant pour les dirigeants, pour la continuité, la transmission de l'entreprise.
Vincent Charlet, est-ce qu'on peut se passer de ce genre d'entreprise pour établir la richesse d'un pays ?
Non. Magafor, c'est un des exemples de ce qu'on appelle les champions cachés. C'est un concept qui a été proposé par Simon.
Simon ?
Un économiste allemand. Ces champions cachés sont des entreprises leaders sur leur marché, c'est-à-dire que le critère pour en faire partie, il faut être au moins premier, deuxième ou troisième sur son marché mondial, mais moins de 4 milliards de chiffre d'affaires. Donc ce sont des PME ou ETI à rayonnement mondial. C'est effectivement un modèle, si je puis dire, qui marche extrêmement bien en Allemagne et en Suisse alémanique, mais qui marche aussi en France. C'est un des piliers, une des forces sur lesquelles il faut s'appuyer, pas la seule bien sûr, mais c'est un des domaines de résilience et de performance, et aussi d'emploi accessoirement, de la base industrielle française. Oui.
Christian Pallois, je vais vous poser la question qui fait le titre de cette émission. La richesse des nations passe-t-elle par cette industrie-là ?
La richesse des nations, elle passe par un tissu industriel, et que le tissu industriel, il est multiple, il est composé de petites et de grandes entreprises, et qu'un des problèmes de la France, c'est que les grandes entreprises ont pris une place de plus en plus importante. C'est ce que je peux observer, moi, notamment dans les secteurs que je connais bien, que ce soit dans les industries agroalimentaires, le textile et autres. Et donc, ces groupes multinationaux mettent en cause la notion d'entreprise. C'est-à-dire que lorsque une entreprise passe sous la coupe d'un groupe multinational, elle perd les fonctions traditionnelles de l'entreprise. La fonction risque, la fonction coût de transaction, la fonction responsabilité, etc. Et donc, il y a un affaiblissement du tissu industriel des entreprises qui dépendent des firmes multinationales et donc de leur capacité ensuite à s'adapter au marché.
On en parlera dans la seconde partie, voilà. Christian Pallois, voilà. Puisqu'on est au bout de la première partie de cette émission. Nous continuons à parler industrie et richesse des nations dans 3 minutes après un flash d'actualité.
Écho d'ici, écho d'ailleurs sur RFI. D'ici, écho d'ailleurs, Jean-Pierre Bouris.
Deuxième partie d'écho d'ici, écho d'ailleurs, un sujet, la richesse des nations passe-t-elle par l'industrie ? trois invités pour répondre à cette question. Jean-Louis Beffa, président d'honneur de Saint-Gobain, 180 000 salariés dans le monde. Christian Pallois, économiste, et Vincent Charlet, directeur du think tank La Fabrique de l'Industrie. Au cours de la première partie, nous avons vu que l'industrie française était plutôt dans un sale état. Cette semaine, le premier ministre algérien Abdelmalek Sellal et le patron de Renault, Carlos Ghosn, étaient à Oran pour inaugurer une usine Renault. Il y avait aussi le ministre français des Affaires étrangères et du Développement international, Laurent Fabius, et celui de l'économie, Emmanuel Macron, qu'on écoute.
30% de la valeur ajoutée de cette usine sera française et près de 40% des pièces détachées qui seront aujourd'hui à Paris dans cette usine viendront de France. Donc c'est une très bonne opération pour la France, c'est une très bonne opération pour les salariés français, c'est une très bonne opération pour les sous-traitants français.
C'est important pour l'industrie française de se déployer ainsi au-delà de ses frontières, Jean-Louis Beffa ?
Je suis 100% d'accord avec ce que vient de dire Macron. Là, il s'agissait de fournir, de faire une usine dont la taille était telle qu'elle était adaptée essentiellement à la fourniture du marché algérien. Donc si nous n'avions pas localisé une partie de la valeur ajoutée en Algérie, nous n'aurions pas eu la position commerciale privilégiée qui va nous aider. Et au sein, évidemment, de cette production, comme il l'a rappelé, il y aura une partie non négligeable qui viendra à partir de France. Donc il ne s'agit pas du tout d'une usine qui, pour l'exportation dans la planète, va remplacer une usine française. Il s'agit d'une usine d'une certaine taille, uniquement pour servir le marché algérien. Comme quoi, quand on voit des implantations à l'étranger, il faut analyser de près ce dont il s'agit avant d'approuver ou condamner. Pour moi, cette opération algérienne est une excellente opération pour Renault, et y compris pour les travailleurs français de Renault.
Pourquoi ?
Parce que, si on n'avait pas fait ça, on n'aurait pas eu le marché algérien. Un Allemand, Volkswagen, aurait fait cette usine et on perdait les 40% de valeur ajoutée qui, venant de France, va s'intégrer dans cette usine qui va produire des voitures et se développer pour servir les Algériens.
Alors Christian Pallois, vous connaissez bien l'Algérie, vous y avez enseigné l'économie. Pour l'économie algérienne, cette usine de production de Renault, 350 ouvriers, c'est quelque chose d'important ?
C'est une goutte d'eau par rapport à la au marasme de l'industrie algérienne. Je dirais que c'est ce qui est bon pour la France. Il faut regarder du côté de l'Algérie, c'est l'apport est peu important pour l'Algérie parce que c'est une usine d'assemblage. Et que dans les cartons de Renault, il y avait déjà une usine avant Renault, avant le plan de Constantine. Ce qu'il faut regretter pour l'Algérie, c'est qu'il y a eu une industrialisation extrêmement importante jusque dans les années 80. L'industrie prenait plus de 50% de la FBCF jusque dans les années 80, c'était colossal.
La FBCF ?
De la formation brute de capital fixe, plus de 50%, colossal. Un des plus forts taux qu'il y ait jamais eu. Et ensuite, ces actifs industriels sont tombés en désuétude. Et donc, ces industries, ce ne sont plus que des usines qui n'ont plus aucune valeur. Et donc, il faut tout recommencer. Or, l'Algérie a un pactole industrie, un pactole financier avec des ressources financières pour relancer des plans d'investissement. Et ces plans d'investissement ne sont pas au rendez-vous.
On a l'impression que les Algériens se reposent sur ce pactole gazier et pétrolier.
Absolument.
Pour ne pas développer leur industrie. Que c'est
absolument.
Une volonté.
C'est de la redistribution hein, en termes de revenus, etc. Regardez par exemple le bâtiment. Le bâtiment en Algérie, il est dans la main des Chinois. Donc ce sont les Chinois qui construisent les autoroutes, qui construisent les immeubles, qui construisent les hôpitaux, etc. Et les Algériens, même au niveau de la main-d'œuvre, ne sont pas impliqués. Donc c'est une catastrophe sociale.
Vincent Charlet.
Oui, il ne faut pas opposer les deux réalités ou les deux tableaux qui viennent d'être esquissés. L'Algérie a été une puissance industrielle rayonnante dans toute l'Afrique jusqu'en les années 80. Elle l'est plus aujourd'hui, c'est vrai. Cela dit, le déploiement de l'industrie française et européenne au Maghreb, au-delà du cas purement algérien, est indispensable, vital, à la performance dans la durée de l'appareil industriel continental. C'est objectivement démontrable.
Jean-Louis Beffa ?
Oui, moi je crois de toute façon que le secteur public algérien n'a pas fait la démonstration de sa capacité de gestion, même si on a mis beaucoup d'argent pour mettre à sa disposition des usines. Donc je crois qu'il n'y a que deux voies, ou bien faire appel, comme le Brésil, à des capitaux internationaux, ou bien développer beaucoup plus vigoureusement le capitalisme privé algérien. Et je pense que tant qu'on n'aura pas beaucoup plus une gestion privée et non pas une gestion publique, qui à mon avis manque d'efficacité, du bureaucratisme et a toute une série de défauts que l'on connaît bien, tant qu'on ne passera pas un système beaucoup plus privatisé, eh bien l'Algérie ne se développera pas.
L'Afrique, c'est aujourd'hui le continent de beaucoup d'espoir, de beaucoup de rêves. Au sud du continent, l'Afrique du Sud, peut-on dire, est le seul pays véritablement doté d'un parc industriel. Au nord, l'Égypte cherche à relancer son économie et son industrie. Ce sera un des objectifs de la visite qu'effectuera le président Abdel Fattah al-Sissi à Paris dans quelques jours. L'industrie égyptienne a souffert de la crise politique de ces trois dernières années. Écoutez ce qu'en dit l'homme d'affaires et banquier égyptien Mounir Makar, que j'ai rencontré dans un grand hôtel parisien.
La crise politique de ces trois dernières années a certainement ralenti les investissements, le renouvellement dans le domaine de l'industrie. Nous avons eu également des industries qui ont souffert de pertes de marché, de pertes de compétitivité.
Lesquelles ?
Des petits produits de consommation, des produits qui servent à faire des petites pompes ou des éléments qui servent pour l'agriculture. Tout ce qui peut avoir des industries qui viennent compléter les services.
Comme l'Algérie, l'Égypte est dotée d'une très vieille industrie, c'est ce que rappelle Mounir Makar.
Il y a une vieille tradition de l'industrie en Égypte, qui a commencé au 19e siècle, et jusqu'aux années 1950 à peu près, le niveau industriel de l'Égypte était très similaire et semblable à celui de la France. Bon, par la suite, l'Égypte a pris un tournant totalement différent, puisqu'elle a opté pour une politique industrielle assez, pays de l'Est, les cimenteries, ou plutôt les aciéries, les grosses industries lourdes, qui n'étaient pas nécessairement rentables. Il y a eu ensuite un nouveau tournant dans les années 70-80, avec Sadat et puis Moubarak, où on a repris une industrie beaucoup plus de moyenne entreprise ou de techniques plus avancées. Et donc on a vu venir de l'électronique, une gamme extrêmement vaste. Étant entendu que l'industrie militaire égyptienne, établie depuis de très 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 nombreuses années, a toujours développé une industrie de pointe. Par exemple, dans le domaine de l'aéronautique, certaines pièces des avions français sont faites en Égypte. Il y a eu des échanges extrêmement importants à des niveaux de technologie très importants.
Jean-Louis Beffa, l'Égypte vous semble capable de repartir ?
Je crois que jusqu'à ce qu'il y ait eu les récents incidents après le départ du président Moubarak, je pense qu'il y avait un sentiment assez favorable pour aller investir prudemment en Égypte. Le groupe Saint-Gobain, avec des partenaires, a installé une grande usine de verre plat, qui est un investissement de 120 millions d'euros. On a mis d'autres produits, notamment parce qu'il y avait des familles avec lesquelles on s'entendait bien, mais qui depuis, ça évidemment, dans la révolution, se sont posées des questions, comme la famille Saouiri, qui est une famille copte. Donc finalement, aujourd'hui, oui, il y a eu une période favorable. Tant que maintenant le gouvernement politique ne montre pas une stabilité suffisante, je pense qu'il sera très difficile, dans l'immédiat, de re-avoir des investissements étrangers.
Pourtant, l'Égypte lance de grands investissements, comme le doublement du canal de Suez.
Oui, non, mais ça, elle peut très bien le faire avec son argent, elle développera, elle fera venir des entreprises qui le construiront pour elle. Mais ce ne sera pas en soi, ça créera des conditions intéressantes, mais en soi, ça ne créera pas la création de richesses que crée l'entreprise industrielle classique.
Christian Pallois, vous croyez à l'avenir de l'industrie égyptienne ?
Écoutez, moi, je ne suis pas devin, donc je suis très prudent là-dessus. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a une vieille tradition industrielle en Égypte, comme le rappelait le président Beffa. Et donc, l'Égypte, par exemple, avant les plans de développement sur l'Algérie, etc., donc on rappelait qu'en Égypte, il y avait déjà une vieille industrie qui permettait d'enraciner le développement industriel égyptien. C'était un petit peu la même chose en Tunisie, d'ailleurs. Hein. Donc, la Tunisie offrait un peu les mêmes caractéristiques que l'Égypte, hein, un vieil enracinement industriel que n'avait pas l'Algérie. L'Algérie n'avait pas de tradition industrielle. Donc, ce qui explique cet investissement public, etc., hein, qui a eu lieu dans les années 70-80. Donc, Bon, wait and see, comme on dit.
Vincent Charlet, wait and see pour l'Égypte.
On peut dire ça comme ça. Ce qui me paraît essentiel, c'est de retenir que, si on prend un petit peu de recul, sur long terme, le Maghreb, dans son ensemble, va jouer un rôle pivot absolument essentiel dans, d'abord, l'assise industrielle européenne et, deuxièmement, dans l'industrialisation de l'Afrique tout entière.
Pourquoi ?
Parce que des pays qui sont aujourd'hui moins chahutés, comme le Maroc et la Tunisie, le montrent. Un groupe européen comme ST Microelectronique s'installe au Maroc, pas pour faire des babouches, mais pour y former des ingénieurs. Et dans les pays d'Afrique subsaharienne, aujourd'hui, les capitaux, les ingénieurs télécoms, proviennent maintenant pour moitié du Maroc et des pays dynamiques de ce genre-là, et pas uniquement de la France, comme c'était le cas, ou pas majoritairement de la France, comme c'était le cas il y a encore 20-30 ans. Il joue un rôle pivot essentiel.
Jean-Louis Beffard ?
Je trouve que le Maroc, évidemment, est celui qui a choisi la voie qui apparaît aujourd'hui la plus efficace, hein, puisque vous citez SMT Electronics, on peut citer l'implantation de Renault, hein, qui n'a rien à voir avec celle de l'Algérie. Hein, de même, Saint-Gobain, derrière, est venu faire une usine de verre plat extrêmement importante. Donc aujourd'hui, le contexte le plus favorable apparaît marocain. Mais si on prend un tout petit peu de recul, globalement, c'est indiscutable que l'Afrique se développe beaucoup plus qu'avant. En moyenne, avec des pays dont on parle peu, mais qui se développent de façon très intéressante, comme l'Éthiopie, par exemple. Avec une certaine déception, qui est l'Afrique du Sud, et puis, je dirais, avec une longue vieille déception, qui est le Nigeria. Hein, pays qui a énormément de moyens, et qui n'arrive pas à le transformer en une économie productive efficace. Et tout ça se perd. Mais d'une façon générale, malgré tout, face à la montée asiatique, je n'arrive pas à voir un pays qui va prendre une immense dimension. Bon, le Maroc est un peu petit malgré tout.
L'Égypte, vous parlez d'industrie quand vous parlez de
oui,
pays.
Oui, quand je dis d'industrie, je veux dire un pays industriel qui va compter face aux Asiatiques, par exemple. En un mot, j'aurais plus confiance dans le développement de l'Indonésie, de la Malaisie, voire du Vietnam, que dans presque le développement d'aucun pays africain.
Pourtant, par exemple, le gouvernement ivoirien met en ce moment en place des méthodes, des politiques pour essayer de convaincre les grandes
industries. Il n'a pas de tradition industrielle, il a une tradition agricole.
Et vous croyez que c'est incompatible ?
Je ne dis pas que c'est incompatible, je dis que c'est une affaire de culture, c'est une affaire qui prise de temps. Je pense que l'Afrique va se développer indiscutablement, beaucoup plus qu'avant, mais que, si je puis dire, la gouvernance de type économique permettant les mécanismes d'accumulation, de valeur ajoutée, d'investissement, etc., qui permet en gros à un capitalisme de se développer à une certaine vitesse, je le vois encore extrêmement ralenti par des habitudes, des traditions, des éléments politiques. Alors que je vois des pays dont qui paraissent pas les premiers pays asiatiques, et là je cite à mon avis tout le sud-est asiatique, je pense que ceux-là, nous allons les voir émerger beaucoup plus vite. Et je redis, Vietnam, Malaisie, Indonésie.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, nous parlons industrie et richesse des nations avec trois invités, Jean-Louis Beffa, président d'honneur de Saint-Gobain, l'économiste Christian Pallois et le directeur du think tank La Fabrique de l'Industrie, Vincent Charlet. Nous venons de parler de l'Afrique qui s'industrialisera peut-être ou pas, mais au cours des 20 dernières années, le monde a installé ses ateliers en Asie et plus particulièrement en Chine. Le pays est maintenant la deuxième puissance économique mondiale. Vous, Jean-Louis Beffa, en tant que président de Saint-Gobain, vous avez été aux premières loges pour assister à l'émergence de l'industrie chinoise. Est-ce qu'on peut dire que cela a été très rapide ?
Ça a été phénoménalement rapide. Et fondamentalement parce qu'on a construit les infrastructures avec un volontarisme, pour ne pas dire un autoritarisme impressionnant. Hein, la façon dont les gens étaient expropriés, les autoroutes se construisaient, et aujourd'hui, surtout la façon dont le pays est en train de se mailler avec des TGV, car le choix qui est fait est un choix de TGV pour le pays chinois, va entraîner d'abord des contextes étonnamment favorables. Ensuite, les grandes entreprises chinoises, qu'elles soient privées, sachant que quand même en Chine, on est toujours sous la dépendance du Parti communiste chinois, même en privé, où les entreprises publiques font des progrès de gestion, de technologie, même de recherche, au-delà simplement de la mise en œuvre technologique, c'est-à-dire le début de la créativité, qui était quand même un de leurs défauts. Ils regardaient beaucoup, ils les mettaient bien en œuvre, etc. De monter en gamme, qui sont impressionnantes. Pour ma part, j'ai toujours sous-estimé la vitesse de développement de la Chine. Et je crois que on ne voit pas venir dans beaucoup de milieux la concurrence nouvelle qu'apporteront les Chinois tels qu'ils sont en train de se développer en efficacité.
Christian Palois, ça vous inquiète ?
Cela m'inquiète, mais en même temps... on a longtemps, moi j'ai eu des positions anti-impérialistes, et donc je suis content que le tiers-monde et que les tiers-mondes se développent. Donc je suis dans une contradiction, puisque cette industrialisation du Sud se fait parfois au détriment de l'activité industrielle en France. Mais il faut soutenir ces développements dans les différents Suds, ce qu'on appelle les BRICS. Néanmoins, ce que l'on peut observer aujourd'hui, c'est le ralentissement de l'activité dans la plupart des BRICS. À savoir que cette activité dans le Sud a permis d'atténuer la crise économique au centre. Et aujourd'hui, le ralentissement de l'activité économique, y compris dans des pays comme la Chine, en Amérique latine, etc., et les statistiques du Fonds monétaire international le montrent, ce ralentissement du PIB, toutes les courbes sont en recul, vont poser un problème. C'est-à-dire que, plus globalement, excusez-moi de faire de la théorie, se pose pour le capitalisme maintenant un problème à nouveau de débouchés. C'est-à-dire que, quels sont les débouchés ? Les frontières sont là, sont pesantes.
Nous parlions tout à l'heure de la Chine, un autre géant en Asie qui est l'Inde, mais qui n'a pas le même parcours. Bien sûr, il y a de grandes entreprises comme Tata, l'industrie textile indienne est la deuxième au monde, mais malgré cela, l'Inde n'a pas fait sa révolution industrielle. Elle est directement passée d'une économie agricole à une économie essentiellement de services. Le secteur industriel ne contribue aujourd'hui qu'à 13% du PIB indien. Conséquence, l'Inde est obligé de beaucoup importer de l'extérieur, et l'extérieur, eh bien, c'est évidemment la Chine. Aussi, le gouvernement de Narendra Modi, aux affaires depuis mai dernier, a-t-il décidé de relancer l'industrie indienne. Il veut éliminer les obstacles, souvent bureaucratiques, qui font de l'Inde un terrain difficile pour les industriels. L'Inde qui cherche à faire sa révolution industrielle, c'est le reportage du correspondant de RFI à New Delhi, Sébastien Farsi.
Rajat Sika est un patron heureux. Cet Indien quadragénaire qui a fait un master de commerce à Harvard détient 3 usines de fabrication de vêtements haut de gamme à New Delhi dans sa compagnie Saivana. Mais s'il n'a pas encore de cheveux blancs, c'est qu'il a fait un choix clair, vendre toute sa production à l'étranger. Le marché indien est bien trop compliqué, dit-il.
Si je dois envoyer de la marchandise de New Delhi à Paris, tout ce dont j'ai besoin, c'est d'un reçu, d'une liste de biens et d'une facture aérienne. Mais si je dois l'envoyer de Delhi à Noida, dans l'état indien voisin du Uttar Pradesh, je dois m'adresser à 6 administrations pour avoir 6 autorisations. Et il y a toujours une chance que mon camion soit arrêté à la frontière, parce qu'un papier n'est pas en règle. Il est donc plus facile pour moi d'envoyer des biens à Paris que dans la ville voisine de Noida.
La complexité administrative de l'Inde est légendaire et en fait l'une des destinations les plus difficiles pour faire des affaires. Le pays est classé à la 142e place mondiale sur 189 dans le rapport annuel de la Banque mondiale. Le Premier ministre Narendra Modi a annoncé qu'il allait lever ses obstacles pour relancer l'industrie locale. Il a ainsi créé un plan de route appelé Make in India et dont Arbind Prasad est le responsable au sein de la Chambre de commerce et d'industrie.
Nous voulons d'abord offrir une information claire sur les réglementations nécessaires grâce à une plateforme Internet, puis éliminer celles qui ne sont pas nécessaires et ensuite rassembler les bureaux qui délivrent ces autorisations pour ne pas avoir à courir partout et donc accélérer ce processus. Enfin, l'objectif final sera de pouvoir obtenir ces autorisations par des demandes en ligne.
Le gouvernement aimerait aussi créer 24 méga-zones industrielles où les entreprises bénéficieraient de rabais fiscaux et de procédures administratives accélérées. L'objectif est de quasiment doubler la part de l'industrie dans l'économie d'ici 10 ans pour la porter à 25% du PIB. Mais pour y arriver, il faudra également former une énorme quantité de travailleurs non qualifiés et ceci va demander la création de nouvelles infrastructures, comme l'explique Atul Sood, professeur d'économie à l'université Jawaharlal Nehru.
Si je veux apprendre comment utiliser un bon métier à tisser, je ne trouverai pas de centre de formation. Les travailleurs sont donc engagés comme stagiaires, payés une misère et passent 3 ans à apprendre leur métier tout seuls.
À l'heure actuelle, un actif indien sur 2 œuvre dans l'agriculture, mais la Chambre de commerce est progressivement en train de développer des formations et des diplômes pour les engager dans l'industrie.
Vincent Charlet, on découvre en écoutant ce reportage qu'il est plus facile d'exporter de l'Inde vers la France qu'au sein du territoire indien lui-même. C'est quelque chose qu'on rencontre souvent, ce problème ?
C'est quelque chose qu'on rencontre dans tous les marchés fragmentés et morcelés. On a parlé tout à l'heure de l'Afrique subsaharienne, c'est un petit peu pareil. Ce sont beaucoup de petits marchés juxtaposés. L'Inde est un État, mais c'est aussi la collection de différents États. Et évidemment, les relations d'affaires, ils sont beaucoup moins fluides qu'en Chine, par exemple.
Jean-Louis Beffa, vous voyez sourire en écoutant
oui,
ça.
Oui, si vous voulez, moi je n'appartiens pas du tout à ceux qui pensent que l'Inde est en voie de rattraper le moins du monde la Chine. Je considère que le point fondamental résulte de leur structure politique. Vous êtes une structure avec des États qui ont beaucoup de pouvoirs, qui ont des pouvoirs réglementaires, on vient de le voir, mais qui ont aussi les pouvoirs pour faire les routes et les transports, qui sont catastrophiques en Inde, les pouvoirs pour faire l'énergie, et qui sont également catastrophiques en Inde. Et par contre, alors je dirais à l'inverse, quand vous êtes en Inde, c'est un pays très agréable parce qu'en tout cas, les marchandises chinoises concurrentes, je peux vous dire que ça leur coûte énormément cher pour venir vous faire de la concurrence.
Aux Chinois.
Donc, les Chinoises. Donc par conséquent, l'Inde est une cage dorée dans lequel un industriel qui est dedans arrive à parfaitement bien vivre et avoir une bonne rentabilité. À condition d'ailleurs de bien maîtriser ses affaires, c'est-à-dire que moi je préfère ne pas avoir de partenaire indien, mais je préfère être géré totalement par des Indiens. Comme ça, nous avons très bien réussi dans Saint-Gobain. Nous avons un tiers du marché indien du verre plat et du verre automobile. Nous avons notre plus belle usine du monde entre Chennai et Bangalore.
Qui fait quoi?
Qui fournit du verre plat et du verre pour l'automobile, car là, il y a beaucoup d'automobilistes aussi. Il n'y a pas que Tata, il y a Hyundai, etc. Et donc, Saint-Gobain est un industriel extrêmement heureux en Inde, parce que on est dans une cage protégée si vous arrivez à bien vous adapter au pays. Tandis qu'en Chine, vous avez à tous les moments une concurrence absolument féroce et difficile. Donc, je préfère de loin investir en Inde par rapport à investir en Chine, mais je pense que le pays Inde sera très en retard par rapport au pays Chine.
Ce qui est assez paradoxal dans le monde industriel qu'on a sous les yeux, c'est que partout, pour promouvoir l'industrie, on vante les mérites du libéralisme et du moins d'État, mais que ces pays dont on parle, la Chine, l'Inde, eh bien, sont ceux où l'État est le plus puissant et le plus présent, Jean-Louis Beffa.
Mais ça fait depuis longtemps que je crois que les théories dites libérales sur le moins d'État sont complètement erronées. Je pense que ce sont de bons schémas parce que les Américains nous l'ont dit, parce que pour eux, moins d'État, c'est laisser la voie libre à leurs entreprises. Donc je pense qu'il ne faut absolument pas, y compris en Europe, faire un modèle calqué sur ce que nous dit l'OCDE, la Commission de Bruxelles, et nous adapter au libéralisme venant des États-Unis. Il nous faut, pour l'Europe, faire une stratégie à l'allemande.
Vincent Charlet, la fabrique de l'industrie, est d'accord avec ce que dit Jean-Louis Beffa, votre think tank?
D'abord, je ne suis pas la voix de la fabrique
Même un peu.
Nous ne nous positionnons pas sur des débats de théorie politique, dans la mesure où le débat est un petit peu plus, mûr. Que celui-là, peu de gens maintenant parlent d'opposer un modèle pur à un autre et donc du tout État ou du pas du tout État. ce qui est évident, c'est que les politiques industrielles, au sens très général, y compris la normalisation, les infrastructures, etc., facilitent le développement économique et le développement d'industrie, personne ne le conteste, et que par ailleurs, la fluidité du marché, de la circulation des hommes, des capitaux, etc., est aussi un vecteur de développement industriel. Il n'y a pas de contradiction entre ces deux constats.
Jean-Louis Beffa, le mot de la fin.
Vous pouvez me rajouter un mot. Je ne suis absolument pas pour une action directe de l'État. Je crois que l'État, quand il est en charge d'une entreprise publique à 100%, ne gère pas bien. Je suis pour que l'État fait, comme en Allemagne, un contexte. Ce contexte allemand est fait par les dirigeants des entreprises et par les syndicats, et le gouvernement veille simplement aux décisions prises par ce consensus. Donc je suis pour un État qui crée un contexte. Je suis un État qui a un contexte pro-industriel, un État stratège, un État en faveur de l'entreprise, quitte à faire un peu payer le consommateur. Je suis pour un État qui fait des groupes puissants, quitte à ce que la concurrence ne soit pas aussi idéale que le veut la Commission de Bruxelles. Je suis donc pour un État qui intervient, mais pour créer un contexte. Je ne suis pas pour un État qui fait lui-même.
Merci à vous, Jean-Louis Beffa, Vincent Charlet, Christian Palois, d'avoir participé à cette émission qui était réalisée par Jérémy Besset. Vous pouvez nous retrouver sur le site internet rfi.fr à l'onglet émission. La semaine prochaine, c'est Clémence Denavy qui sera à ce micro et je vous retrouve dans 2 semaines.
Écho d'ici, écho d'ailleurs.